Bah, bonjour à tous, on va commencer cette séance du conseil municipal. On va donc commencer par l'appel. Donc Isabelle Touzard présente, Gilles Cousin
présent,
Juliette Papro-Picama
présente,
Gilles Chicot
présent,
Séverine Ségismont
présente,
Corinne Durand
présente,
Mélanie Arnal
présente.
Alors Hélène Bonnet-Puel absente a donné pouvoir à Juliette.
Okay.
Dominique Barry,
présent.
Guillaume Garcin,
présent.
Laurent Mayou,
présent.
Jean-Claude Mouret, absent.
Il a donné pouvoir
à Dominique Barry. N'oubliez pas de signer dans la carte de ce Claudine Moyane.
Présente.
Patrick Portigosa.
Présente.
Véronique Provin-Red.
Présente.
Laurent Pratt, absent, a donné pouvoir à Gilles Cousin. Laurence Rousseau, absente, a donné pouvoir à Claudine Moyane. Bernard Senot, absent, a donné pouvoir à Gilles Chicot. Et Yohann Clément, donc le quorum est atteint, on peut valablement délibérer. Donc, il nous faut un secrétaire de séance, ou une secrétaire de séance, qui veut bien le faire. Yolande, merci. Et je passe à l'approbation de l'ordre du jour. Donc, il y a des observations. Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité. Il y aura des questions diverses hein, ce soir, en fin de conseil. Et on passe à l'approbation du compte-rendu de la séance du 10 mai. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte-rendu? Non. Pas d'observation. Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité. Donc on peut rentrer dans le vif du sujet avec Séverine qui va nous présenter les trois ou quatre même premiers points à l'ordre du jour.
Donc le premier point c'est la simplification comptable avec l'expérimentation du compte financier unique et l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable N57. Donc, pour expliquer simplement, aujourd'hui, les collectivités, la nomenclature comptable, c'est la N14. Par exemple, le département, c'est la N52, la région, c'est le N71. Et en fait, en janvier 2015, le but a été d'harmoniser tous les points comptables pour que, sur toutes les collectivités, on parle un peu le même langage. A été créée la L57, d'abord sur tout ce qui était métropole. Et aujourd'hui, en fait, on demande aux collectivités de passer à la L57 pour qu'on soit harmonisé sur le langage comptable. Toutes les collectivités auront l'obligation de passer à la L57 au 1er janvier 2024. Et certaines peuvent faire l'expérimentation un peu en amont, donc pour nous, en fait, on souhaite le passer depuis le 1er janvier 2023. Ça a certains avantages parce que comme on est en expérimentation, c'est vrai qu'on a un peu plus de soutien de la trésorerie pour mettre les choses en place petit à petit et être efficace au 1er janvier 2024. Donc, autre changement avec la M57, donc le but c'est d'avoir des règles budgétaires assouplies. Donc, il y a trois principes hein, qui sont notés sur le rapport. En matière de gestion pluriannuelle des crédits, définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. Autre assouplissement dans les règles budgétaires en matière de fongibilité des crédits, faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections et à l'exclusion du crédit relatif aux dépenses de personnel. Et dernier point, en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues, vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Donc ça va assouplir et faciliter l'exécution budgétaire au cours de l'année. Autre changement avec la liste 57, c'est qu'aujourd'hui, vous votez un compte administratif et un compte de gestion. Le compte de gestion sur les résultats du trésorier, le compte administratif et le résultat du maire. Et donc maintenant, on va passer sur un compte financier unique. Il n'y aura plus qu'un seul document à voter pour le résultat. Voilà, dans le grand principe, les modifications avec la liste 57.
Il y a une mention, c'est une autorisation de
programme. C'est des assouplissements pour se faire justement par rapport à l'exécutif. Donc, vraiment, le but, c'est de faciliter les choses au quotidien en matière budgétaire et de et d'harmoniser aussi. On va rentrer le mandat.
Donc, c'est assez technique.
Il y a des questions.
En fait, on va le faire dès maintenant à titre expérimental, sachant qu'on est toutes les communes sont obligées de le faire à partir de 2024, c'est ça. Bon, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de formation, de...
d'accompagnement aussi,
de la trésorerie, tout, parce que c'est de nouvelles invitations, donc on va utiliser quand même des
ce qui est important, c'est qu'on ne perde pas ensuite, nous, quand on va vouloir comparer d'une année sur l'autre. C'est ça, moi, qui me fait peur, parce que c'est important qu'on puisse quand même garder le fil et pouvoir se comparer par rapport aux années précédentes. Et si tout est chamboulé, c'est ça qui va être, à mon avis...
Il va y avoir une année difficile, en fait, c'est la transition entre les deux. Il va falloir savoir où on se situe par rapport à l'année précédente. Et après, une fois qu'on sera vraiment passé en 1957, une année sur l'autre, voilà, on va se retrouver. Mais c'est vrai qu'il y aura une année transitoire.
Et ça, il faudra que vraiment, nous, les élus, on puisse quand même avoir les moyens de se comparer. Par rapport aux autres années, quoi. Si les choses changent d'affectation. Est-ce qu'il y a des observations, Laurent ?
Est-ce qu'il faut changer d'outil informatique ?
Non, pas du tout. En fait, les prestataires informatiques font les mises à jour, c'est déjà fait, même d'ailleurs. Ils ont déjà préparé les mises à jour du logiciel. Et aujourd'hui, en fait, on pourrait déjà travailler sur la M57, c'est juste un paramètre à changer. C'était déjà fait.
Il y a d'autres questions ?
Et là, qui sera formé ? Donc Marie, Nathalie ou Séverine ?
Oui, essentiellement.
Ouais.
Après, il faudra un moment nous expliquer, je pense.
Oui, parce que au niveau de la présentation budgétaire, on va être obligé de présenter exactement les modifications, ce qui était avant le budget, etc. Ça, c'est évident.
Donc en fait, vous allez travailler quelque part sur les deux maquettes.
Les deux maquettes. Oui. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est ça, en fait. Mettre un petit peu l'adéquation entre les deux. Et on aura deux plans contacts, je pense.
Oui.
Pour pouvoir bien voir.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Observation, donc je mets au voix. Qui est contre l'adoption de la maquette M 57, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Donc le point suivant, c'est une décision modificative au budget 2022.
Oui. Alors, la décision modificative, elle porte sur deux points. Suite à la vente de la Twingo, il faut sortir la valeur du bien, de l'actif de la commune. Donc il y a des écritures comptables à faire. Et comme on l'a rendu moins cher que sa valeur initiale, il y a une différence en fait qui est répercutée sur le budget. La différence est 491 €. Donc les moins 8 000, moins 7 500 sont les écritures comptables. Donc 8 000 €, c'est la valeur de départ du véhicule. Et 7 509, en fait, c'est la moins-value du véhicule, ce qu'on n'a pas récupéré. Voilà. Donc, ce sont juste des écritures comptables. Vous voyez qu'on a les mêmes en fonctionnement et en investissement. Donc, ça s'annule. Mais les écritures, elles doivent être présentes dans le budget pour vraiment montrer qu'on a sorti le bien de l'actif de la mairie. Et ensuite, la deuxième modification, la deuxième décision modificative, donc c'est une recette supplémentaire en investissement de 875 euros qu'on impute en fait pour équilibrer en dépenses. Voilà, vous avez plus 875 euros en recettes d'investissement au 2031. Et pour que ça s'équilibre, on a également 875 euros en investissement au 2128.
Ça, c'est la demande du trésorier.
Oui.
Tout ça, c'est des rectifications comptables à demande de la trésorerie.
Mais ça n'impacte, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, ça s'équilibre.
On n'impacte pas notre budget. C'est juste des régularisations de lits. Je ne sais pas si ce sujet appelle beaucoup de débats.
Non.
Bon, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, les admissions en non-valeur du type de recette. Donc, tous les ans, c'est ça, hein?
Oui, alors les admissions en non-valeur, qu'est-ce que ça veut dire quand la collectivité souhaite recevoir une recette, ça peut être un loyer, il y a plein de possibilités. La commune émet un titre, c'est-à-dire qu'elle fait une demande de versement. Quelquefois, donc, les titres doivent être payés quand on le reçoit, titre de la perception. Mais quelquefois, les gens ne payent pas. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, si aussi la somme est minime, ou si on ne peut pas avoir de versement, et ben en fait, le comptable nous demande d'annuler en fait ces écritures parce qu'on n'aura pas possibilité de récupérer ça. C'est admission en valeur. Donc là, vous avez un tableau avec l'énumération de tous les titres qui ont été faits et qui n'ont pas été payés. Ça représente au total 466,09 euros. Voilà, donc ça.
C'est le trésorier qui nous fait cette demande. Oui, oui, oui. Ce temps que le conseil municipal n'a pas acté ça, il est censé continuer à essayer
à relancer,
de percevoir la recette.
Je vois là, vous voyez, il y a des sommes à 2 euros, 1 euro. Ça, c'est des seuils sur lesquels. En fait, il y a plus de dépenses.
Bah oui, en timbre.
Voilà, donc c'est pas là-dessus que vous réclamez de l'argent, donc ça, c'est vous en
mettez. Et les 105, 105, c'est quoi? C'est le marché?
Alors, si on ne retrouve pas la personne, voilà, le motif de la présentation derrière, c'est que la personne, bah, elle n'a pas été retrouvée, donc après, on n'arrive pas à aller récupérer ses sommes.
C'est spécial, ou pas?
Ça peut être des loyers, parce que je vois que c'est du 752, c'est des loyers.
On
n'aime pas trop, voilà,
on
n'aime
pas. Oui, on n'aime pas les noms.
Oui, d'accord, c'est qui c'est. Après, si la personne, on la retrouve, parce que c'est vrai que la trésorerie fait beaucoup de recherches, elle va même des fois aller jusqu'à percevoir sur la case, faire saisie sur salaire dès qu'elle retrouve l'employeur. Et quand bah, on ne sait pas où est la personne, il n'y a plus de moyen pour essayer de récupérer la.
Est-ce qu'il y a des observations? Je pense que si le trésorier nous propose ça, c'est qu'il a été au bout
de
ce qu'il pouvait faire, c'est ça?
Oui.
Des observations?
Non, il est allé au bout. Non, bah, ça c'est évident. Il est allé au bout de tout ce qu'il pouvait faire. Oui, au moment, une fois que ce n'est pas possible de recouvrir le programme de X ou Y, il prend une décision. Et il fait acter la.
Il nous demande de l'acter.
Non, c'est juste ce qui est gêné, c'est que, on ne sait pas savoir que la personne a accédé, la commande de la personne, mais voilà, c'est tout. Et le programme, si on ne peut pas récupérer, on ne peut pas récupérer. C'est principe, mais ça, c'est pas le souci. C'est juste ça. Par rapport.
Non, mais on ne peut pas en conseil municipal. Est-ce qu'il y a des autres observations? Du coup. Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Ensuite, une instauration des tarifs de location. Les tarifs existent déjà, mais on les fait évoluer, on va dire. Donc notamment, on les fait à la lueur de l'usage, on distingue plus clairement certaines situations. On dire ça comme ça, c'est bien.
Oui, c'était ça l'idée, c'est que bah, déjà il y avait des nouvelles salles, les scolaires par exemple, si on avait des demandes, bah, il fallait quand même qu'on ait des tarifs en place. Et puis, c'est vraiment pour clarifier, est-ce que tel lieu on peut, est-ce que tel lieu on ne peut pas, si on le loue, est-ce qu'il y a un tarif, est-ce que s'il y a un tarif extérieur. Voilà, on a vraiment essayé de retravailler sur toutes les salles et toutes les possibilités qui pouvaient se présenter par rapport aux demandes en mairie. Donc, je ne vais pas lire tout ce qui est pratiqué, mais l'idée, en gros, ça a été de revoir un peu le tarif des salles, savoir si on était cohérent par rapport à ce qui se pratiquait autour aussi, et de vraiment pratiquer des tarifs extérieurs habitants de Muriel. Bon, en général, les habitants de Muriel sont à peu près à moitié prix. Et d'instaurer aussi des tarifs si c'est en journée, demi-journée, qu'est-ce qu'on appelle demi-journée, ça peut être par exemple une réunion qui se finit à 4 heures, mais auquel cas on pourrait relouer le soir. On a vraiment essayé de réfléchir à toutes les éventualités, toutes les demandes. Voilà, pour que ce soit acté et que si on a une demande, on sache y répondre, enfin au moins les services administratifs. Et on a aussi instauré les cautions pour les associations. Donc l'idée c'est que l'association en début d'année, en septembre, elle verse une caution pour la salle, elle fait un chèque qui est valable pour l'année de septembre jusqu'au fin août, et également une caution par rapport au ménage, puisqu'on a souvent des défauts. Et ces cautions, elles restent en mairie, elles sont valables pour l'année, et on n'a pas besoin à chaque fois qu'elle prend une salle de leur demander une caution. On a la caution pour l'année, et ça évite d'y revenir. C'est pareil, c'est quand même que ce soit acté pour les associations. Donc on a fait les salles et on a fait également tout ce qui était matériel, donc remettre à la location également. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent.
Il y a une interrogation, et vous avez parlé de lui. Jardin de la mairie, le ménage extérieur est particulier.
Donc c'est ma part.
Bah ouais.
Bon, le point d'interrogation.
Nous manquons. Ça passe dans le jardin de la mairie, effectivement. J'ai une question sur le jardin de la mairie. Est-ce qu'il fait figurer dans les tarifs précédemment, dans la grille tarifaire d'avant ou pas?
Non, on n'était pas.
Alors, c'est quoi le statut aujourd'hui de ce jardin? Parce que là, je comprends qu'on peut le privatiser.
Oui.
Pour moi, c'est nouveau. Quoi. Enfin,
c'est nouveau. On n'en a jamais discuté. Il a déjà été privatisé souvent, pour des anniversaires, pour des choses comme ça. Et l'idée, c'est que dorénavant, pour les particuliers, on ne parle pas des associations. Les associations, si le privatisme qu'on va prendre maintenant, je n'ai pas. Et l'idée, après, on peut s'entendre sur un maximum de mise à disposition des particuliers, puisque ça reste un lieu public, que si on veut que les Montréalais aussi y aillent, en dehors des événements. Mais il est déjà privatisé depuis de la planète.
Je suis surpris que ce lieu figure.
Par exemple, il y a des établissements de recherche qui nous demandent de pouvoir utiliser la mairie à côté de la salle de mairie pour faire des repas, des trucs. Et ils le privatisent, donc ils le soustraient, ils occupent le public, ils le soustraient à l'utilisation.
On ne peut pas interdire par exemple à quelqu'un de se promener dans le jardin. Même si c'est privatisé, par exemple.
Non, mais bon, les personnes savent qu'il est privatisé. Donc, la dernière fois, ils versent pour lire tranquillement s'il y a une fête qui est là, ou un anniversaire, etc. C'est plus le même usage.
Oui, non, mais je comprends. Mais c'est vrai que c'est peut-être bien d'en informer les gens parce que.
Alors, il y a à chaque fois, il y a un arrêté. Comme c'est d'occupation de l'État. Bon,
oui, non.
Mais on régularise quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Après, si on décide, le conseil municipal, je propose que ce soit un autre conseil municipal permanent, de dire qu'on ne met plus du tout à disposition de particuliers le jardin de la mairie, ça c'est un choix qu'on peut faire.
C'est vrai qu'on n'a jamais trop discuté du statut de cet espace. Donc, je le découvre là, il y a peut-être une discussion à avoir.
On peut le faire.
Peut-être maintenant.
Non, pas maintenant, mais
à une autre occasion, je pense.
L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à une demande. Parce qu'on a eu des demandes et que c'était pas acté sur l'internet, tout ça. Et le tableau, c'est de dire, aujourd'hui, j'ai une demande, je peux répondre, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Après, c'est vrai que sur le statut du jardin en lui-même, c'est une réflexion qu'on peut avoir.
Voilà.
Pour moi, c'est un jardin public. C'est l'image que j'en ai de l'autre.
C'est tout à fait une question qu'on peut se poser, mais dès lors qu'il a été équipé, électrifié, mis en scène, mis de quoi faire un bar, il y a un barbecue, il est tout équipé,
comme pour
si dans ce cas, quelqu'un veut utiliser ses équipements électriques, etc., là, je comprends tout à fait. On va se payer une prestation parce qu'on met à disposition le service, etc. S'il n'y a pas d'utilisation de tout ça,
bon, bah, en tout cas,
alors, la justification du tarification.
Dans ce cas-là, Laurent, c'est vrai que ça fait depuis 6 ans qu'il y a des gens qui nous demandent et qui bloquent pour organiser un anniversaire, etc. Voilà, si on décide de ne plus le faire, je propose qu'on le fasse à un autre conseil, qu'on refasse ce choix-là, parce que ça voudrait dire revenir sur une pratique qui existe déjà depuis un moment.
Et il y a plein d'autres communes qui le font, c'est-à-dire qu'ils ont des espaces publics qui temporairement les privatisent pour une demande, que ce soit une institution ou un particulier, et ils font payer un tarif sur la.
Après, c'est des choix.
Voilà, c'est des choix.
Voilà, c'était juste pour.
Parce que c'était une pratique sur ce jardin. Exclusivement sur le jardin de la mairie, c'est le seul aujourd'hui où ça se fait.
Dimanche, il y avait une association.
Pour des particuliers, j'entends. Pour des particuliers. Ou pour des extérieurs. Je ne parle pas des assos. Les associations, on utilise tous les espaces publics de la commune. Mais bon, je note qu'on pourra en faire un débat ultérieurement. Moi, ce que je voudrais quand même par rapport au rapport, c'est faire une proposition parce qu'on avait mis un forfait de 20 euros pour la participation à l'énergie. Je propose que lors de ce conseil, on ne statue pas, on laisse en suspens. Parce que, j'en profite, on vient de recevoir de la part d'Héro Énergie des informations sur les évolutions des tarifs d'électricité et de gaz dans le cadre du groupement commande pour les collectivités pour 2023. Et l'électricité est multipliée à ce stade aujourd'hui, ça peut encore évoluer d'ici la passation du marché, multipliée par 2,3 et le gaz par 2,5. Donc on va arriver à un stade où la consommation d'énergie, que ce soit pour chauffer, pour climatiser, va devenir un poste énorme. Donc la question de définir comment on met à contribution ou pas les occupants, les différentes catégories d'occupants et à quel montant, je propose que ça on avait réfléchi à un tarif, mais c'était avant d'avoir la nouvelle. Je propose qu'on laisse, ne le mette pas pour l'instant à délibération et qu'on y revienne au prochain conseil municipal une fois qu'on aura réfléchi en groupe de travail pour voir adopter quelle proposition on fait pour la participation des occupants aux frais d'énergie. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on retire dans l'entrée rapport à 20 euros et qu'on y revienne au prochain conseil municipal de rentrée, pour qu'on ait quelque chose de clair à communiquer ce d'hier. De toute façon, il y a le chauffage en hiver, mais aussi la fin en hiver. Et qu'on reprenne posément les choses.
Après, j'ai une remarque aussi, je pense que ces tarifs pour s'entendre pour une utilisation relativement régulière par les associations. Je pense qu'il y a aussi des cas où les associations qui vont faire une réunion de 2 heures par an. Effectivement, dans ces cas-là, c'est 20 euros.
Ce que je propose, Laurent, c'est qu'on tout à fait, on va en discuter à la prochaine. On supprime cette question du forfait énergie pour l'instant, parce qu'on a trop d'éléments trop récents qui nous sont arrivés, et on réfléchit ça posément pour le prochain conseil.
Effectivement, c'est la remarque que je fais. Il faut bien voir que chez les associations, il y a des utilisations régulières de locaux et ça s'y prête parfaitement. On comprend tout à fait cette logique-là. Il y a aussi des cas où il va y avoir des utilisations hyper ponctuelles qu'il faut peut-être gérer un peu différemment.
Ça, on en discutera. On en discutera au.
D'adapter un peu le système.
Est-ce qu'il y a des observations sinon sur ce tarif?
On est plus bien donc dans le tarif des salles du ménage systématique.
Alors, le ménage est facturé systématiquement pour les particuliers et pour les extérieurs. Pour les associations, on ne facture pas le ménage pour l'instant. Voilà. On a mis une caution au bout de. On se propose d'agiter au bout de 3 avertissements. Mais au-delà, ça c'est bien, c'est le règlement. Mais au-delà de ça, ce qu'on se propose avec Séverine et les élus qui sont en lien avec les associations, c'est de se réunir, avec les associations là avant l'été, pour leur expliquer la situation à laquelle on va être confronté Donc, déjà voir avec elle comment on peut bien redémarrer l'année prochaine pour éviter d'avoir une situation un peu compliquée au niveau de questions de ménage, de remise en état, etc. Donc, voir avec elle comment on fait pour ne plus avoir ça à régler. Et deuxièmement, par rapport justement à la question de la consommation d'énergie, voir avec elle, puisqu'elles vont être partie prenante de nos stratégies de diminution des consommations d'énergie. Donc on doit aller voir le 2 juillet, elles vont recevoir une invitation. Là, il va falloir qu'on se serre les coudes. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de cas où, après les événements, voilà, c'est pas forcément volontaire, c'est des oublis, mais beaucoup d'énergie passée à régler ces problèmes de nettoyage, de ménage, de ramassage des déchets, etc. Donc, après qu'on arrive à trouver une solution. Est-ce qu'il y a encore d'autres observations?
Juste pour moi, le cas du caraviole, on n'est pas dans la liste. Or là, c'est aussi une situation où c'est un espace.
Ouais. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu ce cas de figure. En fait, on a mis le jardin de la mairie parce que ce cas de figure de privatisation par des particuliers et des extérieurs, il est fréquent. Carabiole, on ne l'a pas eu encore.
D'accord, mais ça pourrait arriver.
Peut-être. Autre chose qu'on pourra discuter. D'autres remarques? S'il n'y en a pas, j'ai nos votes. Donc, qui est
le matériel.
Ah oui, le matériel, oui. Elle l'a présenté aussi. Le matériel, elle a parlé, c'est bien. Je peux vous donner une observation sur le matériel. Il y a quelques points d'interrogation qui sont restés.
Les barnums pour les louer, franchement, faudrait les laver.
Alors, moi, ce que je propose, écoutez, comme il y a quelques points, là, c'est... Il y a quatre lignes des points d'interrogation. On adopte les tarifs sur tout le tableau, sauf ces quatre lignes, et on adoptera les tarifs sur les quatre lignes qui restent, c'est-à-dire sono, panneaux clignotants, vidéo, projecteur, barnum. On vote ensemble en septembre. C'est comme ça? Donc, moyennant cet ajustement, est-ce qu'il y a des questions sur cette affaire, des observations? Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. C'est oui. Alors, on rajoute donc les trois lettres.
Oui. Donc, la prochaine délibération, c'est la demande de subvention auprès du Fonds départemental d'aide aux communes pour l'année 2022. Donc, chaque année, on peut demander une subvention sur tout ce qui est travaux d'entretien du patrimoine et de la voirie, où on n'est pas concerné. Donc, cette année, on propose...
Au département.
Oui, au département. Cette année, on propose de mettre dans cette demande de subvention l'achat à la médiathèque de placards à livres pour 2 400 € hors taxes, le branchement en électricité en eau plus le diagnostic amiante avant travaux pour les cartes SIA, 2 700 €, la reprise du réseau chauffage sur l'eau, 1 000 €. La terrasse des lavoirs, 4 900 €. L'installation du réseau Wi-Fi public, 2 800 €. Et la mise en place de WC public, pour une enveloppe de 15 000 €. Donc ça nous fait une enveloppe d'environ 50 000 €. On a défini vraiment sur cette enveloppe de subvention tout ce qui nous semblait prioritaire, en fait, qu'il fallait vraiment passer en priorité. Sur la fin de l'année 2022, voire début 2023, sur les travaux qu'on va réaliser.
Ça me paraît énorme, la terrasse des lavoirs, c'est beaucoup de travaux.
C'est énorme.
Faut tout refaire, en
déjà
fait.
Déjà, le bois, faut tout refaire.
Et il y a urgence à
faire.
Donc on a discuté en équipe un peu de l'ordre dans lequel on faisait les choses. Hein. On a décidé que l'urgence, bah, c'était dans les travaux. Alors, il y a les travaux qu'on va faire en 2022 qui sont déjà subventionnés dans le cadre des subventions acquises en 2021. Parce que vous savez qu'à chaque fois, avec le département, on a 2 ans pour faire les travaux une fois qu'on est notifié des subventions. Donc là, en fait, c'est des travaux. Si on est notifié, on espère dans le département, on a ensuite 2 ans pour faire ces travaux.
Sur les subventions à 80% celle-là.
On est subventionné à 80%, ce qui est très intéressant. C'est le maximum qu'on puisse avoir. Alors, on ne peut pas être subventionné à 80%. Et donc, tous les ans, le département, et on espère que ça va se poursuivre, nous finance des enveloppes de l'ordre de 50 de projets sur des enveloppes de l'ordre de 50 000 euros. Très intéressant pour toutes nos actions sur le patrimoine, en dehors des gros travaux, je dirais, des gros chantiers pour des financements spécifiques. Là, l'idée, c'est aussi derrière, donc cette année, en 2022, on va avoir les travaux liés aux mises aux normes, bien, qui sont vraiment du ressort du propriétaire au bar brasserie, et des adaptations aussi à la session PMR pour la presse. Et puis, sur le finaliser les jardins partagés, au branchement électrique et l'installation de pompe. Et on aura cette année aussi, on a décidé en équipe d'éviter justement la réfection de la terrasse parce que là il y a un problème de danger, c'est de sécurité. Une autre urgence pour cette année dans tout ce qui est là, c'est la reprise de chauffage des écoles, parce qu'il faut que le chauffage marche, il y a des bonnes suites. Maintenant la chaudière est réparée, maintenant c'est les fils dans les tuyaux. Il faut réparer ça dès la rentrée là cet été pour ça. Maintenant ou maintenant,
ouais. Et on avait parlé de changer les LED de la mairie, là.
Alors si, on va changer les LED, mais ça avait déjà fait l'objet d'une demande de subvention au FAIC de 2021. C'est pour ça que ça n'apparaît pas. Mais on a décidé de le faire aussi, si possible, dans l'année 2022, en fonction de la trésorerie disponible. Là, il y a des belles économies à faire. Je ne sais pas, Gilles, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à tous ces travaux.
Tu veux que je rajoute des travaux ?
Non.
Il y a des problèmes électriques au petit jardin.
Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais. Il va y avoir ça à régler.
Ça, je vais faire. On a eu du bol, la tireuse a sauté, mais la tireuse a bien. Mais en fait, le loueur de tireuse a pris ça en charge. Donc, je suis allé nous excuser auprès de. du boulanger, mais bon, tout va bien. Après les travaux, on a tous nos travaux à finir, hein, sur le cimetière, sur le terrain de boule, sur puis on a hier la avec l'école maternelle, donc on a travaillé sur l'école maternelle. Vendredi, on a réunion avec l'école primaire, donc on va avoir des travaux sur l'école primaire.
Voilà. On s'en met pas,
c'est ça.
Bien. Alors pour l'école maternelle, ce qu'on a convenu, c'est que puisque notamment la reprise des jeux, bon, c'est un moment très enrichi, donc du coup ça nous va en 2023. Donc on va faire des menus travaux cette année.
Oui, on va réparer les jeux, on va remettre en place le sol en gomme, et puis point barre. Mmh. Après, on parle de l'école, il y a une demande pour réparer les vélos et le jeu et les cabochons qui sont tombés et tout. Donc on leur a soumis l'idée de faire un repair café avec les parents d'élèves pour réparer tout ça et puis on leur paye l'apéro en fin de
réparation. Très bonne idée, allier la convivialité.
Votre idée très bonne, mais aussi.
Très bonne suggestion.
Voilà, par contre ils veulent, donc ça leur a promis, hein, ils veulent une cage à poules, voilà, donc c'est 200 euros, 250 euros. Et puis il y a un réceptacle pour récupérer l'eau de pluie, donc Hélène en a un à leur donner, donc on essaiera avec ce réceptacle-là, mais c'est compliqué pour récupérer l'eau qui tombe au bon endroit, pour la mettre au bon endroit aussi, je pense que ça c'est pas simple.
Parce que l'école maternelle,
il n'y
a pas de
gouttière.
Il n'y a pas de gouttière.
Il n'y a pas de gouttière.
Il faut faire venir le centre de loisirs.
Donc ça va être un peu compliqué, mais bon, on a la solution.
Comme une affaire de tuyaux.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette partie demande de subvention au département sur
Travaux sur patrimoine. Non, c'est bon. Ben alors, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, maintenant, l'affaire 6, c'est sur l'atlas de la biodiversité intercommunale, donc porté par la métropole pour les communes. Donc, ça, c'est Dominique.
Oui.
Je vais vous donner à grands traits. Hein,
oui, on va essayer. Donc, comme vous savez, Murviel fait partie de Montpellier Méditerranée Métropole. Et avec la particularité que ce territoire est considéré comme l'un des 35 hotspots mondiaux de la biodiversité. Ça, c'est un point important. On fait partie des territoires attractifs qui connaissent un dynamisme démographique déjà depuis plusieurs années et ce qui a conduit à s'engager fortement pour une prise en compte de la biodiversité pour faire face aux pressions importantes sur le patrimoine naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà le schéma de cohérence territoriale qui tient compte des enjeux de biodiversité, notamment au travers de la trame verte et bleue, de l'application de la séquence éviter, réduire, compenser, et de la définition d'une stratégie d'anticipation des mesures compensatoires, c'est-à-dire pré-identifier des zones de compensation. D'un autre côté, le plan local d'urbanisme, en cours d'élaboration au sein de la métropole, s'inscrit dans cette démarche en visant la préservation de l'urbanisation pour les sites à enjeux, donc on va être dans la hiérarchisation des enjeux, l'inscription de la trame verte et bleue dans ce schéma et le maintien d'une part significative d'espaces perméables dans les zones urbaines. Donc ça, on est dans le maintien, on n'est pas encore dans la restauration, on y viendra. Par ailleurs, l'Office français de la biodiversité a développé depuis plusieurs années un dispositif d'appel à projet destiné aux communes pour les accompagner dans la mise en place d'un atlas de la biodiversité communale. Donc, ce qui permet de pouvoir approfondir les connaissances des enjeux milieux naturels et de mobiliser les acteurs pour faciliter leur implication dans la prise en compte des politiques locales. Donc en fait, on a quatre principaux volets. Le premier, c'est l'élaboration de l'état de l'art des connaissances disponibles, notamment sur la détermination des espèces et des milieux remarquables. Le lancement et l'animation de la démarche citoyenne qui va accompagner cet exercice, qui est essentiel au travers des sciences participatives. La réalisation de ce qu'on appelle l'atlas de biodiversité métropole va permettre d'affiner la connaissance de cette biodiversité et d'aller zoomer sur des zones à enjeu. Et ensuite, au final, on va effectivement avoir une traduction de ces enjeux dans un programme d'action postérieur à la finalisation de l'atlas de biodiversité métropole. Donc c'est à la fois un outil d'information et d'aide à la décision qui va permettre effectivement à tous les projets s'inscrivant dans une démarche métropolitaine de pouvoir s'appuyer sur ces documents pour avoir la meilleure prise en compte possible de la biodiversité. Donc ça veut dire que ça sera améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel, toujours au travers des sciences participatives, fédérer et sensibiliser l'ensemble des acteurs, partager et valoriser le patrimoine naturel, et puis associer les services métropolitains et communaux dans cette démarche, puisqu'ils ont un rôle important à jouer dans la prise en compte des enjeux écologiques. Étayer et affiner l'intégration des enjeux écologiques dans les documents de planification, c'est un débouché important pour ce document, ça permettra d'être plus solide pour convaincre de la bonne prise en compte des enjeux de biodiversité, et puis toujours acquérir de façon continue les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie biodiversité. Et pour cela, on s'appuiera sur le Conservatoire des espaces naturels, CEN d'Occitanie, qui intervient déjà dans les mesures compensatoires sur le piège confié, notamment. Donc on est sur un exercice de long terme en faveur de la biodiversité, et qui pourra se traduire aussi par la mise en place d'un observatoire de cette biodiversité pour voir de quelle façon on évolue. Alors, afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, Murviel, la commune, va donc apporter son soutien et son appui à la candidature de Montpellier Méditerranée Métropole par rapport à l'appel à projet de l'Atlas de la biodiversité communale qui a été lancé donc par l'OFB. Donc c'est important, donc il y a plusieurs communes qui ont, sont déjà lancées sur cet exercice ces deux dernières années, et il y en a d'autres qui sont en train, évidemment, sous l'impulsion de la métropole, de s'organiser pour pouvoir rentrer dans cet exercice sous le pavillon métropole. Donc en conséquence, voilà, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir soutenir la candidature de Montpellier Méditerranée Métropole à cet appel à projet Atlas de la biodiversité communale et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Voilà, donc je vous soumets donc cette délibération.
Voilà, donc c'est la métropole qui a besoin de soutien des communes pour ça renforce en fait le poids du projet qu'ils ont soumis à l'OFB pour pouvoir avoir l'appui, la labellisation hein, de l'OFB et son appui financier pour mettre en œuvre cette place de la biodiversité.
Alors c'est un dispositif d'appel d'offres qui a dont les montants ont été divisés par deux, on était sur 5 millions, on est passé à 4 millions d'euros au niveau national, maintenant on est à 2 millions, donc c'est plus concurrentiel, et il faudra effectivement avoir l'appui et l'engagement des communes pour espérer être le lauréat de cet appel d'offres.
Mais c'est un lauréat qui...
Il y a plusieurs lauréats. En fonction de la nature des projets, il y a un
chaque jury région, qui va statuer. Les OFB, en fait, au niveau régional, chaque région...
Voilà.
Chaque
déclinaison régionale
de l'OFB fait ses choix.
Voilà, une répartition régionale. Peut-être pour votre information, voilà, c'est un projet qui s'élève à 265 000 euros.
Le projet de la métropole.
Le projet de la métropole, bien sûr. Et ce projet de la métropole, bon, bah, l'OFB, dans la proposition financière, dans le plan de financement, apporterait 57% sous forme de subvention, les 43% restants étant assurés par 3M. Voilà, au travers de fonds propres, de participation de personnes.
Et on serait accompagné par quelle structure pour le mettre en place?
Alors, pour le mettre en place, il y a, au sein de la métropole, il y aura une structure d'animation pour cet exercice intercommunal. Il y aura également, sur le plan technique, l'implication du conservatoire des espaces naturels, qui va permettre notamment de pouvoir intégrer l'ensemble du travail qui sera conduit à l'échelle communale. Nous, on va avoir un rôle d'animation pour amener la population à s'impliquer. En gros, ça veut dire qu'on va travailler avec les écoles, on va faire des jeux autour de la biodiversité, on va amener et inciter à ce que les Murviellois s'inscrivent dans un exercice de déclaration des espèces qu'ils ont rencontrées, croisées. Donc ça, c'est un travail qui est assez intéressant pour sensibiliser les Murviellois qui vont jouer à cet exercice. Et derrière, il y a un étage qui est très important, c'est de pouvoir mouliner l'ensemble de ces données, les valider et les intégrer à un exercice un petit peu plus global à l'échelle de la métropole sur les enjeux de biodiversité, sur les espèces présentes. Et pour cela, on a besoin d'experts et on s'appuiera en premier lieu sur le Conservatoire des espaces naturels.
Ça va donner lieu à un document
Ah oui, bien sûr. Il y aura à la fois des contributions locales et il y aura à la fois
un livre
où
ça sera sur Internet
hein. La forme finale, il y a des cartographies, des documents de cartographie, il y a des traductions grand public, puisqu'il y a tout un travail de sensibilisation qui sera fait. Donc il y a plusieurs étapes.
En tout cas, l'OFB attend qu'il y ait à la fois ce volet connaissance, hein, cartographie, connaissance, une production de connaissances, mais aussi que ce soit l'occasion de sensibiliser la population et la population. Donc là, bien entendu, si jamais le financement s'est obtenu, hein, ce qui n'est pas acquis, et si la métropole met en place la classe, je crois que c'est un projet de la métropole de le faire, quoi qu'il arrive, mais elle aimerait bien avoir le label de l'OFB au minimum et puis être financée à hauteur de
ça. Oui, ça permettrait peut-être d'avoir des outils aussi pour les communes. Et...
Voilà. Après, si les communes décident elles-mêmes, mais c'est une décision que fait chacun, de mettre en place des actions et de financer des actions, ça c'est un choix qu'on fait, c'est pas une obligation. Mais l'idée, c'est déjà, on soutient la démarche de la métropole. Et s'il faut mobiliser la population, etc., pour l'associer, ou les assos, Nouvelle Patrimoine, s'ils souhaitent aussi, avec ses membres, par exemple, ou d'autres, sur la commune, participer à cette reconnaissance et l'identification de la biodiversité, ça peut être très intéressant. Hein.
Les Gravelles, c'est avec commencé, non?
Oui.
Oui. Ouais. En fait, il y a deux communes qui ont commencé par elles-mêmes un atlas communal dans les appels à projets précédents. C'est
Prades, qui a été lauréat l'année dernière,
et Gravelle, qui avait répondu en tant que commune. Mais maintenant, la métropole souhaite, l'OFB souhaite, a dit dans les métropoles, on souhaite que ce soit des atlas intercommunaux.
C'est-à-dire qu'on peut
financer les communes les unes à côté des
autres. Là où la métropole peut apporter une très forte plus-value, c'est les limites administratives des communes, ce n'est pas forcément les limites des enjeux biodiversité. Donc c'est très intéressant de pouvoir se répartir les efforts d'inventaire et sans s'arrêter à la commune. Parce que malheureusement, je pense qu'on gagnera beaucoup en efficacité et en coût à travailler au sein de la métropole.
Le lien avec le PMI, il y a bien dans le PMI une partie diagnostique. Il y a cet aspect espace naturel.
Oui, mais il a été reporté dans le PMI sur la base de connaissances faites à une échelle très macro par ailleurs. Mais il n'y a pas eu de travail de terrain spécifique de fait sur Nouvelle pour le PMI.
Ça n'a pas été confié à un cabinet de colo.
Ah non, non, parce que c'est un gros travail. C'est-à-dire que là, il va être fait ce travail. On va rentrer quand même assez précisément dans les enjeux, on va hiérarchiser les enjeux et on va travailler sur les enjeux importants. On ne peut pas tout faire de toute façon.
Aujourd'hui, ce qui est fait, la connaissance qu'on a, c'est au travers des fameuses trames vertes et bleues. Donc ça, ce n'est qu'une partie du territoire. Ils ont identifié les corridors importants pour les déplacements des espèces, pour se nourrir, pour nicher, etc., les réservoirs. Ça a été fait par la région. Il y a le grand schéma régional des trames et ça a été affiné ensuite au niveau métropolitain. Après, on a de la connaissance ponctuelle liée à des opérations.
Voilà, par exemple,
s'aligner, voilà, une étude, Capula, parce qu'on fait de la compensation. Oui. Voilà, mais c'est des connaissances très parcellaires, on va dire.
Les zonages Natura 2000.
Oui, ils sont déjà
bien. Oui, Natura 2000, Alors, Natura 2000, Natura 2000 ne l'a fait que sur la partie directive oiseaux et habitats. Et sur les habitats protégés au niveau européen. Donc à chaque fois, c'est des petits bouts. Et il n'y a pas le...
On espère quand même que ces petits bouts seront récupérés.
C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif.
Et après, c'est important parce que par exemple, dans le PLU, on a des zones agricoles, on a des zones naturelles. Les zones naturelles, c'est une coquille vide. Donc ça permet de pouvoir identifier des enjeux spécifiques à chaque territoire. Et le cas échéant, des mesures qui permettent de préserver ces enjeux.
Ok.
Puis bon, là, c'est au-delà de la classe, c'est la dynamique un peu participative qui est visée derrière. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, juste quand même, on pourrait le dire, Dominique, la commune de Nouvelle fait beaucoup de choses au niveau de l'université. Parce que... On a 38 hectares qui font l'objet de compensation pour la Capula. On a, au Cache-Coupier, on était tenu, le cadre de l'opération saignée, à 6 hectares, on était 16. Donc déjà 16 et 38, ça fait 54 hectares sur la commune. On est labellisé Percep. Il y a tout ce que tu fais avec la LPO. Les jardins partagés écologiques. Le marché en circuit court, ça c'est bénéfique à la biodiversité. Un composteur des plantations de haies, il y en a plein. Une extinction nocturne partielle, c'est bon pour la trame noire. Enfin bon, C'est déjà beaucoup de choses. Les nichoirs, chauves-souris,
chouettes
et frais, etc. Le projet de totem, zéro phytotercène. La petite spirale à biodiversité en pierre sèche. Quand on remonte tous les murs en pierre sèche, avec l'association, c'est un peu retombé en ce moment. C'est pour la biodiversité. Enfin bon, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses.
Allumer une pierre sur la biodiversité avec un petit coussin d'air dessous, j'espère que ça va réduire nos rayons d'amitié.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres observations? Et d'ailleurs, je vous disais que. On en discute, mais je pense que le label territoire engagé pour la nature, on pourrait très facilement vu tout ce qu'on fait déjà.
Après, normalement, le territoire engagé sur la nature, normalement, c'est une des suites qui est donnée à la BN. C'est un cadre d'action.
Mais sauf qu'il y a des communes qui sont telles, sans
Les communes pourraient le faire de façon indépendante, ou le faire. La logique voudrait que ça se fasse dans un cadre métropolitain par la suite, mais après, ça dépendra de quelle vitesse on avance.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, hein, Dominique, d'autres observations? Sinon, je nous vois. Qui est contre ou qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Et puis, la dernière affaire, ça, c'est pour une.
Oui. La dernière affaire.
Avant deux.
Donc, il y a la DRAC qui a procédé à la vérification des noms de musées de la région Occitanie, dans le cadre d'un travail de mise à jour des données relatives aux musées de France. Donc certains d'entre eux ont évolué depuis l'obtention de l'appellation Musée de France, et ça concerne donc notre musée archéologique situé sur la commune. Et donc son appellation Musée de France a été enrichie pour devenir Musée archéologique Paul Soiris. Et c'est donc une volonté de la commune de rendre hommage à son fondateur, puisque c'est Paul Soiris, viticulteur murviellois, passionné d'archéologie, qui a créé ce musée en 1960. Donc, tout changement de nom doit faire l'objet d'une demande officielle par délibération du conseil municipal auprès des services de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Donc, c'est pour ça de proposer au conseil municipal d'approuver la demande de changement d'appellation du musée de Murviel et Montpellier.
En fait, on régularise
une situation qui...
Mieux vaut tard que jamais.
Oui, il y a une petite coquille, je vois.
Est-ce qu'il y a des observations? Alors, on peut dire que le musée est réouvert quand même, Corinne?
Oui.
Alors,
donc, le musée est réouvert. Donc, nous avons une vacataire qui s'appelle Karine Annebert. Catherine Albert, qui est donc très motivée, qui a envie de faire plein de choses, qui va proposer des visites du site, des actions de médiation. Elle sera donc au mois de juin, c'est dimanche de 14h à 17h. Et pendant toute la période estivale, tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 17h aussi. Non, et le dimanche, c'est de 15h à 18h, je me suis trompée. Et il y aura quelques matinées aussi pour faire des visites sur le site, parce que bon, la communauté, ce n'est pas possible avec le cagnard.
Est-ce que les horaires sont marqués sur le musée?
Les horaires ont été communiqués donc à l'office de tourisme sur les réseaux sociaux. Et je pense. Oui, ils sont affichés.
Et l'idée de Karine, c'est aussi de travailler sur les futures journées du patrimoine.
Oui,
on va dire le patrimoine aussi. Ouais. Et puis d'autres projets à réfléchir. Qu'on profite de sa présence.
Oui, parce que c'est, je pense qu'on a trouvé la perle rare.
Est-ce qu'il y a des observations pour le nom du musée Paul Soiris?
Est-ce que vous êtes contre?
Qui s'abstient? Pardon? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, on a terminé les affaires à l'ordre du jour. Donc, juste en information diverse, donc pour informer le conseil municipal de la décision prise par toute l'équipe, d'informer le public que le. je vais prendre, donc conformément à l'avis pris par tous, l'arrêté pour passer le village à 30 km/h. Donc, à partir de la rentrée prochaine, quand les travaux route de Saint-Georges seront terminés, ça coïncide un petit peu pour des histoires aussi de praticité d'implantation des panneaux et tout par le pôle métropolitain, plus anticipé. Donc, la décision de passer le village à 30, il faut savoir qu'aujourd'hui, le village entendu, la zone agglomérée, hein, c'est pas les routes métropolitaines qui nous relient aux autres communes, elles restent à 70 ou à 50 selon les endroits. Là, il s'agit vraiment de la zone agglomérée, sachant que aujourd'hui, quasiment tous les axes principaux sont déjà à 30. Donc il restait un tout petit tronçon qui est le tronçon route de Pignan entre la cave coopérative et l'entrée du village, au droit du Panama qui était encore à 50. Sinon tout le reste était déjà à 30, sauf les quartiers pavillonnaires. Les quartiers pavillonnaires, c'est une demande hein, de ralentir. De la circulation d'un quartier pavillonnaire et sur les axes, principaux axes, on était déjà à 30. Route de Bel Air et toute la route de Saint-Georges qui traverse le public. Donc ça permettra d'être aussi beaucoup plus clair vis-à-vis de l'usager qui sait que voilà, c'est la 30. Alors il y aura des décisions à prendre qui ne sont pas encore prises. Donc une fois qu'on discute, c'est que dès lors qu'un village passe à 30, ça nous permet de prendre ou pas. C'est notre choix, la décision, quand il y a des sens interdits pour les voitures, d'autoriser les vélos, par contre, à aller dans les deux sens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse, s'il y a des demandes de vélo. Donc, il y a des cas de figure sur la commune, il faudra qu'on prenne cette décision tranquillement. Et puis, voilà, je pense que c'est une décision de bon sens pour clarifier un petit peu les règles. Et ça nous permettra d'abonder notre dossier village prudent.
Et en même temps, on va réfléchir à la priorité à 30 sur certains
axes. En fait,
tu peux aussi. Le facteur devrait être mis, mais il faut en discuter.
Par contre, ceux qui viennent de la région de Moulin, ils sont prioritaires. Et là, bon, c'est toujours à sens unique.
Bien, là, j'ai. À Égine, j'ai une information.
J'ai deux informations. Alors, la première, hier, j'étais donc au SDL, vous savez, c'est la région.
Bien sûr.
Donc, il a été voté à l'unanimité de passage en Brigitte de l'Aube de Murville et Montpellier. Donc, on sort du SDL au 1er janvier 2023 officiellement. Pour autant, il faut encore que dans les trois mois, les trois agglomérations, enfin, agglomération et métropole, dans leur conseil, votent aussi cette validation. Mais ça, c'est des formalités. Tous les papiers, enfin, la soute, tout a été décidé, a été vu, a été validé. René a bien travaillé avec le SDL là-dessus, il en fait aussi partie, mais surtout avec la régie. Et donc, c'est officiel, on a déjà annoncé le 1er janvier 2023, on sera à la régie de l'eau. Deuxième petit point, ça concerne le lycée de Clermont-Ferrand. On ne sait pas encore si on est dans la carte ou pas du lycée, mais là, on était à la réunion avec Hélène. Après, mais elle y est restée pour avoir plus d'informations. Si tout va bien, le lycée, enfin, si tout va bien, c'est prévu que le lycée soit ouvert à la rentrée 2025. Et en même temps, la métropole fera les protections pour les vélos, les bus au niveau de service, en fait, tout sera requalifié sur toute la zone ouest. Et Montiel, si on fait partie de la carte, on ne sait pas encore, aura une descente sur Pignan pour récupérer la. C'est ce qui est prévu pour la mais rien n'est figé.
En tout cas, merci Gilles, mais en tout cas, suite à l'enquête qu'on a faite auprès des parents qui, à très grande majorité, souhaitent être attachés au lycée de Clermont-Ferrand, pour des raisons évidentes de transport et de circulation, parce que quand il faut une heure pour rejoindre le lycée de Montpellier, c'est plus possible, et surtout qu'on va en plus avoir tous les tracés vélo, etc. Donc nous, on a fait des courriers à Madame la rectrice, à Madame la présidente de région, en façon très régulière, pour bien rappeler que Muriel demande fortement à pouvoir être raccroché au lycée de Clermont-Ferrand, mais on nous rétorque que la carte n'est pas encore définie et qu'elle ne le sera que 1 an et demi avant la mise en service du lycée.
Oui.
Donc nous avons demandé à être présents à toutes les réunions qui sont organisées sur le sujet, puisque à l'évidence, il nous semble que les choses ne sont pas si claires que ça, puisqu'il y a certaines communes pour lesquelles il semble acquis qu'elles seront, voilà, prononterales, on comprend, on prononçait que ce soit
pas
mal, mais pour d'autres... Oui, mais bon, on nous dit d'un côté que la carte n'est pas encore faite, donc on aimerait savoir quel est le périmètre exact des communes qui sont invitées. Voilà. Donc c'est bien pour ça que nous, la Murvienne, on rappelle bien qu'on a écrit, on réécrit, je vais encore écrire régulièrement, bien montrer qu'on est présent, parce que je pense qu'il va falloir réfléchir.
Alors, sachant que c'est un lycée qui a été annoncé par rapport au lycée qui prend plus de 2000 places sur le territoire de Montpellier, entre Montpellier et Sète, il n'y a pas de lycée, ce sera le lycée, et ce lycée fait 1400, aura 1400 places. Voilà, il a été défini comme ça.
Bien, bah écoutez, on va clore le conseil municipal et la bonne soirée.